Jean-Michel Arconard de la dune du Pilat.
Il devrait mettre son survêtement, il va prendre froid.
Bon, ça va pas recommencer.
C'est bien qu'on n'est pas gâté depuis quelques temps.
J'ai chaud, je me sens pas très bien.
Non, c'est le vin chaud. C'est
bon. Ça va aller. Il y a ni chaud ni froid, et maintenant puis le bouton marqué médium.
Bonjour et bienvenue dans Achaud, le podcast cinéma en deux parties, une partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Nous sortons de la séance sous la drache, ce qui est très paradoxal avec le film qu'on vient de voir, d'une partie 2.
Part 2.
Pas 2, parce qu'effectivement Dune est une planète désertique.
Oui.
Et nous vivons en Belgique, qui est une planète
mouillée.
Bien
mouillée.
Aquatique.
Aquatique, ouf, tout à fait merci. Aquatique.
Foutu des règlements climatiques.
Ah oui, ça oui.
On fait que des rimes en hic.
C'est ça.
Trop bien.
Oh, je vous le laisse, celle-là, je vous le laisse. Bonjour à toi, Morgane.
Mais bonjour à toi, JB.
Bonjour Mathieu.
Bonjour Jean-Baptiste.
Et bonjour Jessica.
Ah oui, alors elle est smart, on ne sait pas c'est quoi son nom. Bonjour. Ah oui, d'accord, c'est ça son prénom.
Alors, Dune partie 2, réalisée par Denis Villeneuve, bien sûr, avec Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Austin Butler, la nouvelle sensation que moi je ne trouve pas du tout géniale, Florence Pugh, David Bautista, Christopher Walken, Léa Seydoux,
que du beau monde,
Stellan Skarsgård et Charlotte Rampling, pour les plus connus.
Encore un film qui a dû coûter une fortune
en casting.
Une bagatelle. Une bagatelle.
80% du
budget. C'est quoi le budget du film?
Alors, je vais vous dire ça tout de suite. C'est 190 millions de dollars.
Ça va encore.
Oh, ça va.
Comparé à Marvel qui fait du 250 ou plus de 200. Franchement,
on est sympa. Ouais, c'est encore. Moi, j'étais là, genre, ça a dû coûter 500 millions de dollars. Mais non, pas du tout.
Non. Non.
Je suis sûr que Denis Villeneuve l'a déjà comme ça. Je suis sûr, certain.
Elle a plus dit 500 millions de dollars.
Maudit français.
Maudit français.
Après Dali la semaine dernière, on a fait l'accent espagnol.
Celui-là, je vous le laisse, mais cordialement. Hein. Allez-y.
L'accent québécois.
Ah mais oui. Ouais. Ah mais absolument.
C'est compliqué.
Ah ouais.
Il est pas facile à maîtriser.
Non mais moi, alors, en dehors de l'accent du canard, j'ai mis bien le canard, mais à côté de ça, je.
Bon, ça a des accents les canards.
Absolument.
Ah ouais.
Bien sûr.
L'accent breton.
On voit bien que tu vas pas en forêt de soigne, toi. Hein. Oh là là là.
Okay.
Tu as perdu ton âne d'enfant.
Oui, mon âne d'enfant.
Ton âme, âme.
Ok,
âme,
d'accord, parce que âme. Si vous aviez des ânes quand vous étiez enfant, moi j'ai pas eu la même enfance.
On en parlera pas. Bref, reprenons nos habitudes. Qui est chaud pour me faire un pitch? Je suis hyper sympa. Puisque je vous demande qui veut le faire. Et je vois qu'il y en a un qui est pointé du doigt.
J'ai déjà prévu le coup.
Et oui, il a lancé Wikipédia. Alors, mon petit Morgane, à toi.
Attends, laisse-moi. Non, je vais prendre celle d'Hallociné.
Ah, ouh, voilà, encore. Monsieur est un connoisseur.
Je connais mes sources. Donc, alors, synopsis de Dune 2. C'est la suite du 1, fatalement. Commençons par le commencement.
Quelle déduction.
Donc, Paul Atreides se rallie à Shani et aux Fremen, tout en préparant sa revanche contre ceux qui ont détruit sa famille, les Harkonnen. Ouais, les Harkonnar. Alors qu'il doit faire un choix entre l'amour de sa vie et le destin de la galaxie, il devra néanmoins tout faire pour empêcher un terrible futur que lui seul peut prédire.
Je rêve ou t'as dit Paul Atreides?
Oui, un petit peu.
Dit... Atreides.
Ouais, je l'ai dit
Paul Atreides.
Comme ils disent,
Mais ça, c'est le résumé officiel, mais on peut s'accorder sur le fait que le résumé pas officiel, c'est en fait juste les élections aux États-Unis, non? C'est pas ça?
Tu mettrais un sous-texte entre Jean-Michel Arconard et le baron Vladimir Harkonnen.
Mm-hmm. On est là-dessus. Non, vous êtes... Non, pas d'avis.
Écoute,
non,
pas je pense que... Il est trop tôt pour se prononcer.
Très bien.
C'est en novembre les élections. L'autre mécheux n'est pas encore été jugé pour son méfait. Donc on va laisser le. Allez, Ajax Tess. Le destin est jeté.
Ce serait bien que ça se termine par un duel.
Oh putain, c'est.
Allez.
Combat d'infirme.
Combat d'infirme.
Comme dans South Park.
Avec des cotons-tiges. C'est génial.
Non, avec leurs cannes. Tu vois, des coups de cannes.
Bon, allez.
Ouais, bon, on s'égare déjà. Merci pour ce magnifique, résumé de l'enfer.
Bon, non, mais merci à Halluciné.
Oui, sachant qu'on est en l'an 10191.
Exact.
Et que c'est l'empereur Shaddam IV et pas Saddam IV.
Shaddam.
Shaddam, oui.
Enfin, j'ai même pas retenu son. Il est mentionné, l'empereur
Le nom, non.
Pardon. Non, pas le nom, non. Le nom.
Dans le bouquin, oui, mais dans le nom, enfin dans le film, non.
Mais on a un connoisseur de premier ordre autour de la table. Lui, il connaît le nom. Il connaît le nom de l'empereur.
C'est pas le padishah aussi. Il y a pas un truc avec le padishah dedans
oui,
c'est pas
lui. Oui, alors, d'un coup, je tombe toute crédibilité sur la connaissance d'UNESCO.
On va l'appeler l'empereur, ça va être plus simple.
Ouais.
L'empereur.
Mmh. Ouais, Palpatine quoi.
Ouais, c'est ça.
Très, très Star Wars.
Mais j'ai envie de dire que Lucas s'est un peu inspiré de Dune. Hein. Mais bon, ça c'est quelque chose qui est un peu de. Oui, c'est de notoriété publique.
Ah, oui.
Oui, qu'en fait, Lucas voulait faire un mix entre Dune et Flash Gordon. Et il a créé Star Wars.
Quelle merveilleuse idée.
Parce qu'à l'époque, en fait, tout est parti de l'adaptation de Jodorowsky, enfin la tentative de l'adaptation de Jodorowsky en 72-73, avec Dali, pour faire un petit lien avec le podcast d'avant, avec les Stones, avec Mick Jagger. Enfin voilà.
Avec beaucoup de monde.
Et avec beaucoup de monde, avec Pink Floyd, la musique, enfin bref, c'était... Je vous conseille de voir le documentaire Dune de Jodorowsky, qui est magnifique.
Mieux que le film, le documentaire.
Bah, c'est-à-dire que le film de Jodorowsky n'a jamais existé, et c'est mieux comme ça.
Mm-hmm. D'accord.
C'est beaucoup mieux comme ça.
Un petit peu comme Lost in La Mancha, finalement.
Oui, c'est comme... Ouais. Bah, quoique, il a fait L'homme qui a tué Don Quixote. Bref, on va partir sur les avis.
Oui.
Et
oui.
Je propose... Vu que Mathieu nous fait l'honneur...
Oh là 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 là, pour mon grand retour autour de cette table. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé?
À chaud.
À chaud. Alors, donc d'une part, je n'avais absolument rien regardé en termes de trailer ou autre. Donc moi, c'était la surprise totale pour cette seconde partie. J'ai un goût de trop peu malgré tout, parce que c'est très très beau, c'est très léché. Pour moi, c'est tout de même un brin trop long. Je pense qu'il y a des choses qui auraient pu être un petit peu éludées, même si je crois savoir qu'on est vraiment dans quelque chose qui suit très fidèlement le livre.
Très fidèlement.
Mais malgré tout, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop long. Des méchants qui, pour moi... En fait, il y a un écueil à éviter, je trouve, dans ces moments-là. Les Harkonnen, on a bien compris que c'était vraiment des badass, des gens pas très gentils et pas très catholiques et tout ça. Et en fait, ben, je trouve qu'il y a un peu trop de couches quoi, qui sont mises par rapport... En fait, on frise par moments, je trouve, la caricature. On n'en est vraiment pas très loin. Et même si c'est normal, parce que ces méchants sont campés de la sorte dans le livre, je trouve que ben, c'est un peu too much dans le film. Donc ça c'est voilà, c'est quelque chose qui m'a un petit peu déçu. À côté de ça, on est dans quelque part une construction de blockbuster un peu classique. Il y a, je veux dire, techniquement parlant, il y a absolument rien à dire sur ce film. Moi, j'ai vraiment été ébloui plus d'une fois.
Qu'est-ce que tu veux dire par construction blockbuster?
Disons qu'au niveau du fil du film, on est dans une grande épopée, je veux dire, avec un héros qui finalement se mue plus en presque un anti-héros qu'en véritable héros. Enfin, en tout cas, c'est ce que ça laisse un petit peu penser. De l'amour, des sentiments,
une structure trop classique.
Voilà, c'est une structure qui pour moi est assez classique, effectivement.
Je peux
pas énormément de surprises, voilà,
je peux dire. Oui. Sauter dans le débat.
Vas-y.
Directement. Oui, je le fais physiquement, podcastique. Bref, voilà,
encore une rime en ic.
J'interviens. Dune est un roman écrit dans les années 50. C'est un peu la base, et en fait toutes les grandes épopées spatiales sont inspirées de lui. Mm-hmm. Donc, c'est schéma classique. Effectivement, on l'a déjà vu, mais parce que ça a été sucé à la source.
À la manière d'un verre des sables, d'ailleurs.
À la manière d'un verre des sables, tout à fait. Mm-hmm. Ou même un petit verre des sables. C'est ce qu'on voit dans le petit bac à sable.
Mm. Oui, ils étaient mignons.
C'était mignon.
Adorable.
Surtout quand on tire le jus.
Ça vous a dû vous faire mal, ça, les gars. Non, ça vous avait fait penser à autre chose, un petit cathéter.
Non.
Nous n'avons pas encore 90 ans, donc on ne sait pas ce que c'est. Nous sommes encore sémillants et plein de jeunesse.
Plein de jeunesse.
Plein de jeunesse, vous devriez nous voir.
Les cheveux grisonnants, la barbe blanche. La moustache de Sensei.
Bon, écoutez, on va arrêter de parler de cheveux là. Parce que,
je t'ai interrompu sur tes.
Je voudrais laisser aussi les autres personnes autour de la table donner leur avis. Voilà, moi j'ai simplement eu la possibilité de regarder le premier épisode. C'était la semaine dernière. Et qui m'avait fait très très forte impression de le re-regarder une seconde fois. Et c'est vrai que je m'étais dit, ah, c'est tellement bien, je trouve que la mythologie s'installe tellement bien dans le premier volume, dans le premier volet, pardon, que dans le second, je me disais, bon, on va être peut-être voilà, dans quelque chose qui va m'emporter de la sorte, de la même manière. Ça a été un petit peu moins le cas. Voilà.
Ok, merci Mathieu.
Avec plaisir.
On t'a écouté religieusement.
Ah là là.
Amen.
Ah oui.
Père Mathieu.
Allez, des paternosters. Faites-moi ça tout de suite, dépêchez-vous.
Jessica, qu'est-ce que tu en as pensé?
J'avais adoré le 1, le 1 était parfait, le 1 était... Le
tu utilisais la voix.
T'as vu ça?
J'avoue. Hop, 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 il y a
et
du level.
Justement, dans le 1, la voix était parfaite. Je ne sais pas si vous vous souvenez,
oui.
Mais à chaque fois que Jessica ou Paul utilisent la voix dans le 1... sens que c'est vraiment « I'm Batman ». Tu vois, c'est genre le truc, c'est vraiment guttural. Il y en a plusieurs. Tu sens que c'est comme si une armée voulait t'imposer quelque chose. Et c'est ça qui faisait la force du premier. Je trouvais qu'en fait, l'univers imposé était fort, était bruyant, était puissant. J'étais dedans. Je l'ai regardé une fois, deux fois, trois fois. J'étais trop bien. Et là, le 2, eh ben, j'ai l'impression que c'est un milieu. Voilà. C'est un milieu où, en fait, il y a beaucoup de bagarres pour donner beaucoup de substance au film. Mais sinon, j'ai trouvé ça un peu long. Et pourtant, je n'aime pas dire du mal des films et je ne vais pas dire du mal de ce film parce qu'il y a quand même plein de choses qui sont superbes dans ce film. Je pense à la photographie, je pense aux costumes, je pense aux acteurs, je pense à des tas de choses. Mais je me suis un petit peu embêtée.
Voilà, c'est dit.
C'est tout dit.
Très bien.
Et les regards se tournent vers Morgane. Qu'est-ce qu'il en a pensé avec ce film?
Tu noteras que Morgane, j'ai fait une espèce de hiérarchie et une espèce de step-up, de build-up sur les avis. Parce que je sentais quelque chose par rapport à toi. Donc
Non. Je vais me rallier un petit peu à l'avis de Général jusqu'à présent. Dune part 2 est un bon film, c'est sûr, mais c'est décevant. C'est hyper décevant par rapport à la première partie, je suis désolé. Oui. Et toute la hype qu'il y a eu autour de cette deuxième partie, qui était soi-disant encore plus extraordinaire, etc., bah, du coup, c'est juste décevant. Parce que oui, le film est bon, comme on l'a dit, il y a plein de choses hyper agréables dans le film, y compris voilà, la photographie, la manière dont c'est filmé, les effets spéciaux, tout est bien fait. Mais ouais, c'est trop long, quoi. Enfin, je veux dire, il se passe pas grand-chose au final dans le film.
Je suis pas d'accord. Il est super dense.
Il y a beaucoup d'expositions, de choses qui sont racontées, qui sont révélées, mais ça prend trop de temps. Le build-up est beaucoup trop long pour finalement les 5-10 dernières minutes. Et le film en soi est pas mauvais, encore une fois, mais il est une demi-heure, voire trois quarts d'heure trop long, en fait. Moi, je trouve que ça manque énormément de rythme. Le premier était haletant. Alors, il y avait dans le premier, il y avait cette phase que j'ai vue en plus il y a deux semaines. Je l'avais toujours pas vue. Mais le premier, pareil, j'avais adoré parce qu'il y avait cette phase de construction pendant une demi-heure, trois quarts d'heure où on t'installe un petit peu les choses, on t'installe les enjeux, les familles, les guerres qui peuvent exister, etc. Et puis après, le film est hyper haletant. Ça t'emmène super loin, super vite. Mais tu restes dedans. Il y a quand même toute cette partie de mysticisme qui est expliquée, qui est installée. Là, ça paraît un peu... C'est poussif, quoi. C'est poussif, même si c'est pas mauvais. Pour moi, c'est poussif. Et comme Jessica, je me suis un peu embêté, quoi. À un moment, j'étais là, je fais bon. Ouais, c'est bien, mais. 2h46 quand même.
C'est ça.
Tu les sens passer. Alors que le premier, il est quasiment tout aussi long. Ou peut-être
2h30, 2h26.
Peut-être un petit peu plus court. Et tu les sens pas passer. C'est presque 3h. Là, tu les sens passer. Et je trouve décevant et à la fois. On nous a un peu menti sur la marchandise, je trouve, pour nous inciter à aller le voir. Ouais, je trouve qu'il y a eu beaucoup de hype autour de ce film par rapport au succès qu'avait eu le 1, justement consécutif à la crise Covid. Ça avait ramené les gens dans le cinéma, etc. Bref.
Il a eu un succès, je t'interromps en deux secondes, il a eu un succès critique, mais pas un succès de box-office. Il n'a pas fait des centaines de il n'a pas fait le milliard, par exemple.
Non,
il a fait moins qu'Oppenheimer, par exemple.
Oui, mais il fait quand même une bonne prestation pour une franchise que les gens connaissent déjà, quelque part, et dont on n'attend pas spécialement grand-chose. Donc, sur le premier, le pari était réussi. Et le deuxième, je trouve qu'on nous a un petit peu... Allez, va le voir, tu vois, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et en fait, c'est pas aussi bien que le premier, je suis désolé.
Mm-hmm. Non, clairement.
Ouais. Bah, c'est ça, en tout cas, tu peux te poser la question, tiens, tout le marketing autour d'un film ne cherche-t-il pas justement à masquer sa médiocrité parfois, tu vois ?
Alors, oui, ça peut arriver que, évidemment, dans les campagnes marketing, on puisse en foutre une tonne et on te montre des bandes-annonces.
C'est Marvel, ça, ouais. C'est l'esprit Marvel.
Mais là, le film en soi n'est pas mauvais. C'est juste que la hype est beaucoup trop... Enfin, ne croyez pas la hype.
Ouais.
Allez le voir parce que c'est un film intéressant malgré tout, mais c'est trop long. Je pense que la plupart des gens, en plus, dans le cinéma, ont sans doute eu la même impression. Il y a eu quelques applaudissements à la fin, mais c'était pas à la toute fin, les gens étaient pas « Waouh, j'ai trop envie d'applaudir tellement, c'était trop bien !»
Qui applaudit encore maintenant au cinéma?
Ce soir, il y a eu des applaudissements.
Non, les actionnaires du GC, tout simplement.
Oh, c'est vraiment génial.
Dans tout ça, le film est décevant. Dans tous ces aspects, justement, cette hype, même moi, j'étais très hypé parce que j'avais adoré le 1 que j'ai vu il y a 2 semaines. Je me suis dit « Oh, trop bien, je suis encore en full dedans, ça va être génial. » Ça l'est pas.
Okay.
Et Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il en a pensé ?
Alors, j'ai adoré.
Yay !
J'ai adoré.
Mais c'est trop bien !
J'ai adoré. Après, je vais aller le revoir. Mais je suis encore sous le choc de la vision. Et alors, je vous rejoins totalement sur le premier tiers du film. Oui, je trouve qu'il y a des longueurs dans la mise en place et on en parlera dans la partie spoiler. Donc normalement, je sais que je dois pas dire ça dans la partie sans spoiler, mais pour faire du teasing sur la partie spoiler, j'ai lu le bouquin Gamin. J'ai poncé la VHS de Dune de Lynch Gamin, ou que j'aimais bien. Bon, c'est complètement kitsch, mais j'étais gamin avec mes yeux de gamin de voir cette épopée spatiale. Plus ou moins réussi jusqu'à ce qu'on sente que le producteur de David Lynch dise à Lynch ok c'est bon calme-toi je vais gérer le film et du coup le film part complètement dans n'importe quoi. J'ai toujours aimé cet univers et j'ai relu le bouquin plusieurs fois dans ma vie et c'est un Herbert a un style très particulier qui est très peu de description, donc c'est pour ça que j'attendais beaucoup en fait de cette version de Dune de Denis Villeneuve, qui est pour moi qui est un réalisateur que j'aime et que j'aime pas. J'ai une relation très particulière parce que je trouve qu'il a une maîtrise dans la mise en scène, une maîtrise dans la tension, la scène de Sicario du passage de la frontière qui est juste hallucinante.
Ouais.
J'aime beaucoup Ennemi, oui, mine de rien, j'aime bien Ennemi, même s'il est un peu barré psychanalytique. Et toute sa filmographie est, je trouve, hyper intéressante, mais il a toujours un problème à gérer l'humain. Et avec Dune, j'étais très impatient de voir comment il allait se travailler le personnage de Paul, qui est un gamin, quoi, qui est un ado au départ de Dune,
ouais.
Et qui s'affirme par cette destinée qu'on lui force un peu et qu'on crée une espèce de ouais voilà, c'est l'image de ce prophète qu'on crée de toutes pièces parce que les Ben Gesserit, donc les sœurs qui en fait contrôle un peu l'univers de Dune.
C'est un peu les éminences grises dans
oui, voilà, c'est celle qui souffle à l'oreille, c'est ouais, un peu ouais. L'angle de serpent qui souffle à l'oreille du roi Théoden, ouais. c'est pareil quoi. Et tu sens que tout ce build-up, je trouve que c'est vraiment une interprétation, je veux dire, des civilisations humaines, vraiment de ce qui se pourrait se passer sur Terre, en Égypte ancienne, et qui est encore réadapté dans l'espace. Il y a quelque chose de très féodal.
Ça, je suis tout à fait d'accord sur ce point-là. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est quand même assez réussi dans le film, je trouve. C'est justement cette manière d'aborder le côté prophétique, religieux,
de foi.
Religieux, etc. Sauf que là, on est quand même dans le flou de savoir si c'est justement créé de toutes pièces par ces Bene Gesserit ou s'il y a vraiment quelque chose de plus mythique derrière.
C'est ça qui est intéressant, c'est que...
Je pense un des aspects pour moi qui a été le plus intéressant du film.
Tout à fait, où tu as ce contrôle. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Moi, j'ai été pris à partir d'une scène en particulier, celle du chevauchement de verre.
Ah ouais.
Ça, c'est vrai que c'est très, très bien.
Et à partir de là, moi, le film... En fait, le film a un rythme particulier. Ça, je vous l'accorde complètement. Il y a des passages, notamment au niveau de la romance entre Zendaya et Timothée Chalamet, qui, pour moi, est un peu artificiel. J'avais déjà des problèmes avec Zendaya dans le premier. Je trouvais qu'elle manque de charisme, personnellement. J'ai un petit souci avec elle. Oui, non, j'y vais, je balance. Zendaya, si tu m'écoutes. Mais par contre, pour tout le reste, je trouve ça exceptionnel. Et il y a des propositions, des propositions de niveau de SF que je n'ai jamais vues nulle part. Avec des idées de mise en scène et des propositions, mais nouvelles. C'est ça qui m'a vraiment fasciné. Après, je connais bien le bouquin et c'est très fidèle au bouquin. Je connais aussi la suite de ce qui se passe et j'ai été complètement servi et satisfait. Et toutes les frustrations que j'avais avec le Dune de Lynch, avec toute l'histoire de connaître le bouquin aussi en parallèle, là, j'ai été récompensé. Donc, j'ai des yeux pas de fan, mais des yeux d'enfant, entre guillemets, qui ont été pris dans un vortex, en fait, de voir de la bonne SF, enfin, de la bonne SF mature, intelligente, où c'est bien traité, avec, effectivement, parfois, des problèmes de rythme. Mais moi, j'avoue que voilà, mon paquet de M&M's, qui était un grand paquet, est parti en deux secondes parce que j'étais pris dedans. Et...
C'est pas vrai, tu as pas fini,
tu lui as dit ça.
Oh le menteur. Oh le menteur.
Je suis désolé, mais c'est quand même un peu écœurant à force à la fin.
Sans blague, chocolat.
Donc je suis arrivé jusqu'à l'écœurement. Mais pour moi, je dois le revoir, mais pour moi, c'est une très bonne suite. Effectivement, c'est un milieu. Voilà,
ça laisse clairement sur sa fin.
Désolé, c'est pas vraiment un spoiler parce qu'il y a quand même un milliard de bouquins. C'est un milieu et c'est peut-être.
Est-ce que ce serait pas la transition parfaite pour passer à la partie avec spoiler?
Tout à fait, ça peut aller.
Ça m'énerve, moi, les transitions. À un moment, on y va, quoi, tu vois. On n'est pas obligé de faire à chaque fois. Ah ben regardez, il y a une petite flaque, je vais mettre un manteau, comme ça vous allez passer. Non, va avec tes chaussures dans la flaque, prends des trucs, éclabousse, c'est ça qu'on cherche à l'écran, d'être éclaboussé, quoi.
Exactement, et c'est pour ça que je fais ça.
Ça, c'était l'éclaboussure. Hein.
Voilà.
Et bim ! Alors, Jessica, t'en as pris plein. Eh oui !
Ouh là là !
Et bienvenue dans la partie avec spoiler.
Ok, yay. C'est bon, on peut lâcher les chevaux. Bim, bim !
Ou les verres de sable dans ce cas-ci.
Comment elle fait tellement sa maline.
Mais attends.
Il y a aussi d'autres bestioles qui sont mentionnées dans le film et dont d'ailleurs on ne voit pas la trace. Hein. Les araignées de je ne sais pas quoi. Là,
oui, les sables. Les mille pattes. Oui.
Il fait les petits mille pattes.
Oui. Les scolopentes des sables, je sais pas quoi. Ouais,
est-ce qu'il n'est pas en train de le baratiner?
Peut-être.
Il fait peur.
Alors.
Ravière baratineur.
Oh! Bar dramatique.
Il faut aller chercher loin.
C'est son côté Lopez. Repartons. Repartons dans une structure. Je vous propose de découper cette partie spoiler en trois parties seulement. On va pas faire au détail. Le film est beaucoup trop long pour ça. Mm. Première partie, au niveau de la suite directe de Dune 1. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Alors,
est-ce que vous avez, comment vous avez pensé la transition et en quoi ça vous a, est-ce que ça vous a plu, est-ce que ça a assouvi les attentes qui étaient lancées à la fin du 1?
Pas tout à fait. Dans le sens où, à la fin du 1, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est tellement haletant. On est tellement dans un rythme assez poussé à la fin du 1 que, du coup, l'introduction du 2 paraît un petit peu...
L'introduction du 2, c'est Paul qui dort dans une dune, quoi.
Oui. Moi, je trouve que c'est encore pas trop mal. Il vient d'y avoir le duel. Il y a Janice qui est décédée, donc qui est un peu embaumée d'une certaine façon. Et on reprend exactement au moment où c'était arrivé.
Oui. C'est tout à fait logique et c'est bien fait. Mais c'est.
Parce qu'il y a cette première scène impressionnante avec.
La perte de rythme par rapport au premier, mais c'est peut-être aussi l'effet de l'avoir vu il y a très peu de temps qui fait que je m'attendais à ce que ça reparte direct.
Mais je vous accorde un truc, c'est que. Enfin, je vous accorde, mais c'est entièrement vrai, c'est que la première scène, haletante de baston avec les Harkonnen, les soldats Harkonnen, où il y a une première bataille. Et après, c'est ce passage de bataille qui est, je trouve, hyper bien maîtrisé au niveau de la mise en scène, au niveau de la tension, avec ces gars, avec ces jetpacks qui volent, mais sans bruit. Ouais, tout est doux. Ouais. Effectivement, après, le film tombe Bah, en fait, dans de l'exposition pure sur le début de la relation avec Shani, donc Zendaya, et Paul Atreides, Timothée Chalamet.
Et j'ai été aussi un petit peu surpris, parce que dans cette première scène, justement, quand tous les soldats Harkonnen se retrouvent sur le caillou, en haut du caillou, et que là, on ne sait pas ce qui se passe finalement, parce qu'il y a une, pas une ellipse, mais on voit qu'il y a des jets de on ne sait pas quoi qui arrivent et qui percent les casques. Et moi, je me suis posé la question, mais en fait, d'où ça vient?
Ils ont des flingues. En fait,
ah oui, mais ce n'est pas présent dans le premier épisode.
C'est marrant parce que...
Donc, moi, je me suis vraiment dit, mais en fait, d'où...
On nous a menti.
Bah ouais, d'où ça vient?
Mais c'est marrant parce qu'en off, avant, en arrivant au cinéma, on discutait, on disait, mais c'est, ce qui est bizarre, c'est qu'on est dans le futur, il n'y a pas de flingues spatiaux, il n'y a pas de laser. Y a pas de...
Là, on a été servi, du coup.
Et là, il y a quelque chose, quoi.
Et je me posais la question, je fais, tu vois, c'est tellement beau quand ils volent avec leurs petits jets. Pourquoi ils font passer tout le temps, de se crever à marcher dans le sable déjà de tu vois.
Bah, ça doit consommer de l'énergie.
Ils ont un casque, mais d'un autre côté, tout le monde sait respirer sur Arrakis. Donc, du coup, pourquoi ils ont besoin de leur casque?
Parce que c'est les Harkonnen. Les Harkonnen, ils sont.
C'est des albinos, ils sont très sensibles à la lumière.
Et ils sont en plus. Tu vois, quand ils en butent,
vous avez vu leur planète?
Ouais.
La planète toute pourrave là où il blanc, fait blanc
et noir.
L'enfer.
J'adore.
Non, ça c'était génial.
Bicolore.
Alors, je suis désolé, mais
alors,
c'est
j'aurais
c'est
quelque
ça,
chose
ça.
À dire là-dessus.
Oui, mais c'est vrai que mais là.
Et je me suis fait la réflexion après, je me suis dit, Mathieu, oui, t'as raison, il va falloir que tu dises ça. Parce que c'est
bah, on va en parler.
Ah ouais, j'ai hâte.
Et donc, par rapport au rythme de cette première partie, pour moi, cette première partie s'arrête au vert, entre guillemets. Enfin, au chevauchement du.
Oui, oui, quand il. La première fois, quoi.
Voilà, la première fois. La première fois dans le désert.
La première fois dans le désert.
On va appeler ça la partie la première fois dans le
c'était,
désert.
C'était brillamment réalisé.
Oui, par contre, la scène est impressionnante.
Ouais,
oui.
Ma...
À fond.
Elle m'a bien saisi. Waouh.
Bah, c'est le moment où je trouve que t'entres dans le film. Pour moi, c'est la porte d'entrée du film.
C'est ça. Et là, tu remarques, évidemment, tout le brio avec lequel il a vraiment fait cette scène de je monte sur le verre, je suis en train de diriger le verre, et je trouvais ça tellement bien fait. J'étais avec, tu vois, et tu te rends compte de toutes les contraintes, le sable qui te balance dans la gueule. Alors, à un moment, je comprends pas parce qu'il y a du sable qui se balance dans la gueule, ils sont là, ouais, non, si t'as du sable qui vient dans ta tronche alors que t'es en train de courir sur un verre, normalement, tu sais pas faire, t'as plus de sable, t'as plein de sable dans la gueule.
J'ai repéré une petite erreur sur cette scène quand même.
Ah,
ouais, parce qu'au tout début de la scène, quand il saute, il a pas de lunettes, hein.
Oui, ah oui, c'est vrai.
Les lunettes, elles apparaissent un peu mystérieusement une fois qu'il est sur le verre.
Parce qu'en plus, il a les deux mains prises avec les harpons.
Bah, à ma décharge, c'était la deuxième fois que je voyais cette scène, puisque quand je suis retourné le voir à l'UGC de Brocaire il y a deux semaines, il passait justement cette scène à la fin du premier pour te teaser un petit peu.
Ah, ouais, viens voir ce qu'il y a dans le deuxième et tout. Il chevauche des verres et tout. Oh, trop de la balle.
C'est là.
Et j'en ai profité pour aller faire pipi, parce que du coup, j'avais déjà vu.
C'est très classe.
Ah, bon aveu, ouais.
Mais non, c'est la scène la plus compliquée à réaliser du film, selon Denis Villeneuve lui-même. Mmh. Il a dit que c'était le passage le plus dur à réaliser, et on comprend pourquoi.
Oui. Carrément, je trouve qu'elle est bluffante. Elle est vraiment...
C'est hyper bien fait.
C'est le moment où... Je trouve que la musique de Hans Zimmer est assez discrète au début du film. Et là... Bam, d'un coup, on sent qu'il met les potards à fond et il se dit, bah, allez, Hans, c'est bon, c'est mon moment, j'y vais, je balance et j'y vais. Et pour après revenir et rebalancer le thème qui d'ailleurs me fait toujours penser au thème de Wonder Woman.
Oui, exactement, c'est un peu la même chose.
Ouais, c'est ça. Le...
Moi, je sais sur Gladiator, mais un petit peu quand même.
C'est normal. Hans Zimmer, Gladiator, Dune. C'est pas lui qui fait Wonder Woman, par contre, je pense. Si il faut aller vérifier. Je serais déçu.
Vous venez de sortir Wonder Woman, ça y est, moi j'ai le jingle de la série télé des années 70.
Wonder Woman.
Quand je disais, hop, vas-y, je fais 4 tours sur moi-même et hop, je me suis changé. C'est trop pratique.
D'ailleurs, en parlant de costumes, il faut quand même avouer qu'ils sont magnifiques, leurs costumes.
Alors ça, c'est bien vrai.
C'est du travail de malade.
C'est bien vrai.
Et pour tout ce qui est photographie, ça aide à mort, quoi. Ils sont... fantastique, vraiment. Ils en changent pas beaucoup, pas souvent, mais sinon purée quoi.
Je te vois bien changer toute ta tenue du sable dans le slip, c'est chaud. Hein.
Mais c'est à l'image du film qui est très bon quelque part. Enfin, c'est bon, très bon.
Esthétiquement parlant,
c'est très bien fait. Mais le problème, c'est le rythme et la longueur. Et je trouve que on s'y perd un peu. Après, encore une fois, c'est un bon film. Clairement, la scène. Enfin, il y a plein de scènes. Les attaques de la moissonneuse.
Les attaques de la moissonneuse, c'est
super bien.
Les scènes avec les vers sont très bien faits. Je suis déçu quand même sur, on va dire, la bataille finale.
Elle est,
qui me semble vraiment très courte.
Elle est à l'image de, du Seigneur des Anneaux dans la...
Oui, un petit peu. C'est vrai,
la bataille de Minas Tirith. Oui. C'est genre, bah, voilà, il y a les spectres qui arrivent. Ah, oh, ouf, ouf.
Et voilà.
Je m'attendais vraiment à une bonne scène, coup de poing d'un quart d'heure, 20 minutes à la fin, un truc qui relance complètement la sauce. Mmh. Et non, c'était un peu sec au final.
Après, dans le bouquin, c'est très rapide aussi. En fait, ça va vraiment straight to the point avec, avec Paul qui va choper l'empereur. Et,
Parce qu'ils expliquent, je suis désolé, j'avance un petit peu sur le...
Tu as le droit.
En gros, on les voit préparer la bataille, ils expliquent, alors toi, tu vas passer par le nord, nous, on va passer par le sud, par l'est et tout, etc.
Non, en fait, c'est vrai que c'est pas du tout mis en application. Ça va très, très vite. Quoi.
Oui, ça va super vite. Mmh. Et peut-être qu'il y a des scènes coupées.
Dommage. C'est la magie de l'ellipse. Et voilà, c'est génial.
Dune, version longue, 5h40.
Le compositeur de Wonder Woman, c'est Robert Gregson Williams.
Ah, c'est le frère de Harry Gregson Williams.
Peut-être, sûrement.
Oui, qui a fait les musiques de Metal Gear Solid.
Oh. Oh là 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 là, mais là c'est du name dropping dans tous les sens. Mais où va-t-on ?
Harry Gregson Williams et Hans Zimmer, c'était partie des deux plus gros compositeurs de musique un peu, tu vois, genre guerrière, la Gladiator et tout. Dans le milieu hollywoodien, ils sont quand même très connus.
Moi j'ai plus Alan Silvestri en mémoire, Predator.
Mmh. C'est trop vieux pour moi ça.
En tout cas, pour nous amener à la deuxième partie du film qui nous intéresse aussi, en fait, il y a, comme tu le disais, toute cette construction de la romance qui naît entre Shani et notre très cher Paul, qui est rasoir. Un peu rasoir pour moi.
En fait, c'est le côté de OK, je sais que je vais y aller, mais non, j'y vais pas.
Mmh. En fait, tout est un peu plié d'avance, je trouve. En fait, il n'y a pas tellement de surprises. On sait qu'il va se la taper. On sait qu'il va être genre le meilleur du meilleur du meilleur monsieur, avec mention, tu vois. Et donc, ça perd un petit peu de tout ce build-up qu'on avait dans le premier. On était là, ouh, qui va survivre, qui va y arriver, tu vois ce que je veux dire.
Oui, mais peut-être aussi parce que Dune, le film vient après 50 ans, 60 ans, 70 ans de récits de science-fiction ou de récits d'épopées qui ont pris ces codes-là, en fait. Et puis même, de toute façon, c'est le principe de la tragédie grecque, hein. C'est le principe de l'épopée, du jeune homme qui se libère et qui...
Il faut bien qu'il y ait un conflit quelque part pour que ça continue à être intéressant dans les prochains.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est l'arrivée du méchant. Donc l'arrivée de son cousin,
Austin Butler.
Elvis, que je trouve qu'il n'a aucun charisme, ce mec. Je le vois dans Les Maîtres de l'air.
Est-ce que c'est facile d'avoir du charisme quand t'as plus un poil sur le caillou vraiment, et que tu ressembles à un cachet d'aspirine.
Nicolas Hoult dans
Mad Max Fury Road.
Oui, mais parce que les rôles de ces personnages-là dans Mad Max font que c'est des déglingos de base et qui se shootent H24, donc ça les rend déjà charismatiques par l'attitude qu'ils doivent avoir vu.
Donc il faut être drogué pour être charismatique.
Là, le cousin, il est austère, le poteau. Il est pas venu là pour blaguer, quoi.
Et tout est tellement austère.
Non, c'est le bon pervers.
Il est beau, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il est très beau. Tu vois, quand tu compares à Nicolas.
C'est une belle perversité, voilà.
Tout est lisse, tu vois, même le gros baron Harkonnen qui est censé être un gros dégueulasse, et ben il est quand même beau parce qu'il est tout lisse, il est tout
flasque et il vole, quoi.
Il est potelé comme un bébé.
Il est quand même un peu dégueu.
Moi, franchement, il fait vraiment Gradouble, quand même.
Sergent Gradouble.
Vous vous souvenez de Gradouble?
Ouais, c'est ça. Mais du coup, le fait qu'il soit tellement lisse et tellement beau, il est difficile à s'accrocher. Quand c'est trop lisse, t'arrives pas à t'accrocher. Et c'est peut-être la même chose qui se passe du coup avec Fedrota, c'est qu'il est tellement lisse, tellement beau qu'il y a pas d'aspérité. On sait pas s'accrocher à ce personnage, on sait pas avoir d'empathie.
Et peut-être que, peut-être si tu peux t'accrocher à sa perversité.
Ouh, et tu t'es accroché à sa perversité?
Personnellement, moi non, mais.
Mais parce qu'elle était trop.
Parce que, il y a quand même la scène où quand il tue son grand-père, du coup, Paul, son cousin regarde ça avec un petit sourire. Il fait c'est pas mal quand même.
Parce qu'il se voit empereur à la place.
Il faut quand même qu'on mentionne le je suis ton père de Dune 2. Hein, quand même.
Grand-mère. C'est ça, quoi.
Voilà.
Il nous fait une Star Wars 9.
Bah oui, c'est clairement. Moi, je m'y attendais pas. Mais on découvre effectivement que la mère de Paul est une Harkonnen. C'est une des filles du baron Vladimir.
C'est la petite fillette.
C'est la petite fillette.
Donc moi, je m'y attendais pas du tout. Et je trouve que ça... c'est pas bien géré, ça, dans le film.
Non, c'est
dans
pas
le
très
film.
Bien amené.
Ouais. Du coup,
c'est fait au forceps, hein, je dois le dire.
C'est vrai.
Donc, et je suis un Harkonnen. So what? J'ai envie de dire.
C'est juste... Bah, ça met en parallèle et en contradiction avec son attributude, entre guillemets, son côté revanchard en disant « Ouais, mais les fils de pute... » Enfin, pardon. Les fils les Harkonnar.
Yeah.
Les Harkonnar. Et dire que, voilà, en gros, les Harkonnar ont tué son père qui est, du coup, devenu son dieu vivant et qui est l'instrument de sa vengeance. Et en fait, il se rend compte que... Ben, il a le même sang et que quoi qu'il fasse, il donnera toujours la descendance du Harkonnen.
Oui, de ceux qui
il va garder la lignée.
Il gardera la lignée quoi qu'il arrive. Donc les Harkonnen sont vraiment des Harkonnards jusqu'au bout.
Et par rapport au livre, tu disais qu'il était assez fidèle. C'est vrai qu'il est assez fidèle, mais moi j'ai été frappée par toutes les différences quand même scénaristiques, ne fût-ce que la manière dont il le découvre, en fait, c'est pas du tout la même chose. Le fait qu'il y a encore d'autres différences, genre au niveau de la relation qu'il a avec Shani.
Oui, c'est...
C'est assez perturbant, parce que dans le livre, Shani, c'est quelqu'un de hyper fidèle, quoi. Hyper fidèle à Paul, elle s'en va pas, elle reste là.
Elle doute jamais.
Non.
Elle est... en fait, pour moi, dans le souvenir que j'ai de Shani, c'est quelqu'un qui tombe amoureuse de Paul, mais elle tombe amoureuse aussi de Muad'Dib.
C'est ça.
Donc, qui est le Messie. Qui
oui,
est
d'accord. Là, il y a une volonté de créer un personnage un peu plus ambivalent.
Plus trouble. Alors, et on le voit vraiment à la fin, quand s'instaure, quand il annonce qu'il va marier la fille de l'empereur pour en fait apprendre le fait d'être empereur, pour devenir empereur. Et Shani, à ce moment-là, comprend qu'en fait, elle sera toujours la concubine. Comme la mère d'Atreide, la mère de Paul a toujours été la concubine et jamais la femme, et qu'elle restera toujours dans l'ombre de Paul parce qu'elle pourra pas, elle a pas le sang royal entre guillemets.
Non, c'est ça. Et avant d'arriver là, même à cette fameuse scène que tu disais en noir et blanc, parce qu'elle arrive à peu près au milieu du film, je pense.
Ouais, grosso modo.
Moi, c'est le milieu.
Ouais. Alors moi, je trouvais qu'elle était hyper incroyable.
Parlons-en de cette scène de Gladiator dans l'espace.
Tu avais quelque chose à dire, toi, Mathieu,
sur Jedi Prime.
Ben, en fait, moi, c'est rien à dire sur comment est-ce que c'est filmé, etc. Non, moi, ce qui m'a gêné, en fait, c'est parce que pour moi, ça a vraiment été une gêne, en fait. Pas au point de fermer les yeux du tout, mais il y a, pour moi, je comprends le contraste, bien évidemment, entre la planète Arrakis, qui est orange, jaune, qui est orange, qui est pleine de sable, et celle des Harkonnen, où, très franchement, c'est le Mordor en pire.
Avec du béton.
Voilà.
Avec du béton.
Mais en fait, c'est la colorimétrie, je dirais, si je peux parler vraiment de colorimétrie, mais qui, moi...
Que dans l'arène.
Oui, mais même... Peut-être que dans l'arène, mais qui, moi, m'a vraiment un peu un peu heurté la rétine, où vraiment j'étais en mode non, pour moi c'est too much, quoi, en fait. Pour moi c'est too much cette confrontation, on veut dire, ce passage de l'un à l'autre comme ça est un peu,
je trouve que c'est
pour moi,
mais
c'est
réussi pour
moi.
Je
comprends pourquoi il l'a fait, après
est-ce que ce film n'est pas un petit peu je vais t'attaquer la rétine, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais
beaucoup trop de clair-obscur.
Ah mon dieu, d'abord c'est vas-y que je te balance l'orange, et puis après, pardon, excusez-moi, là, vous ne voulez pas
vas-y que je te balance l'orange,
vas-y que je te balance le jaune juste après, on va aller dans du bleu, non, du rouge, maintenant du noir et blanc, c'est genre un petit peu, tu sais. Il a mis toutes les galettes là, tu sais qu'on met sur les spots,
filtres,
oui, je sais plus comment est-ce que ça s'appelle ça,
un nom de
gélatine, voilà, je me disais bien que c'était culinaire ce truc. Voilà, et donc et souvent ce qui t'attaque aussi, c'est qu'à un moment il te fait un moment calme, alors du coup tu vois la lumière est tamisée et puis bam, il te ressort dans le désert et tu prends une espèce de lumière blanche dans ta gueule et t'es là, ah mon dieu, je souffre. Donc voilà, pour moi c'était un peu d'une part deux, j'agresse ta rétine, mais bon.
Je trouve que c'était jaune devant et marron derrière.
Oh, joli, joli, joli.
Mais j'avoue que j'ai été complètement charmé par le noir et blanc. Au début, je me dis, en fait, il met deux, trois touches de couleur par-ci, par-là pour te rappeler que tu es quand même dans un film dans l'espace. Et moi, j'aime beaucoup la planète des Harkonnen parce qu'on les voyait, on le voyait pas du tout dans la première partie. Je trouvais que les apparitions des Harkonnen dans la première partie étaient, je crois qu'on le voit trois ou quatre fois, même pas, trois fois, je crois, le baron. Vladimir. Le baron. Vladimir.
Vladimir Cauchemar.
Et il y avait un côté trop Brando dans Apocalypse Now, ce côté où on se touche le crâne comme Marlon Brando dans la fin d'Apocalypse Now. Et là, j'étais content et satisfait de voir c'est du Harkonnen porn, hein, j'ai envie de dire. Avec tout ce côté d'être dans la planète des Harkonnen, de voir tout ce monde de béton, ce côté.
Et puis surtout, moi, ce qui m'a fait marrer aussi, c'est de voir le gigantisme en fait du stade.
Oui.
Où à un moment, je me suis dit, mais non, mais en fait, c'est. Même si on est dans de la SF, en fait, c'est impossible d'avoir un stade avec autant de monde. En fait, c'est impossible.
Ah, mais c'est juste que c'est une planète où il y a des milliards de
personnes. Non, évidemment, mais c'est vrai que ça aussi, c'était assez. Ça m'a fait un peu sourire, en fait.
Ce que j'adore dans Villeneuve, c'est que c'est un réalisateur de plans larges. Il y a des réalisateurs qui savent bien gérer les gros plans. Par exemple, J.J. Abrams, lui, il travaille toujours à la longue focale avec une profondeur de champ très, très serrée. Donc, du coup, il y a toujours du flou derrière. Enfin, Mission Impossible 3, c'est que ça. Et là, avec Villeneuve, il sait filmer les grands espaces, quoi. Comme un David Lean dans Laurence d'Arabie.
Mais en même temps, face au désert, ça se prête, évidemment. Ça serait dommage de ne pas le faire. Oui, mais
tu peux facilement le rater. Je sais pas, tu demandes, je sais pas, à Zack Snyder par exemple, de faire un film de SF, on voit le résultat. Tu demandes à Denis Villeneuve de faire un film de SF, on voit le résultat. Pardon, c'était ma petite pique sur Zack Snyder.
J'avoue quoi.
Non, mais visuellement, le film est beau. De toute façon, même s'il y a effectivement des effets visuels qui sont un peu.
Est-ce que tu as aimé les feux d'artifice qui sont en fait des bulles qui éclatent de peinture?
Oui, c'est un peu stylé.
Espèce de paix mouillée dans l'air.
Paix mouillée dans l'air. Quelle image.
Mais moi,
je pose ça là.
Ami de la poésie, bonsoir.
Je pose ça là.
Mais non, le film est beau visuellement, même si, comme je disais tout à l'heure, il y a trop de clair-obscur, il abuse un petit peu sur le concept du clair-obscur, j'ai trouvé.
C'est pas faux.
Tu savais gérer, c'est bon.
Tu parlais de rythme particulier, et quel est pour toi les moments qui ont été trop longs?
Ah, mais les deux premières parties, les deux tiers du film, pour moi, sont trop longues. La troisième partie, les choses s'accélèrent et on rentre vraiment dans le dur, on va dire, au niveau scénaristique. Il faut faire avancer l'histoire et on y va. Mais les deux tiers, il y a trop d'expositions, trop d'installations, trop de longueur. Ça reste intéressant à suivre parce que l'univers est intéressant de base. Mais le fait que voilà, il n'y ait pas ce petit rythme qui accélère les choses fait qu'on s'ennuie un petit peu, quoi.
Moi, je pense que la romance, c'est ça qui plombe un peu tout. C'est l'installation de la romance.
J'ai trouvé le côté mystique, mythique de.
Ça met un peu de temps à s'installer, moi, je trouve.
Trop longue. Ce qui était intéressant dans le premier, c'est qu'on avait un petit peu par parcimonie cette espèce de mysticisme autour de cette confrérie de bonnes sœurs. Je sais même pas exactement d'où ça vient, d'où ça sort.
Sororité, plutôt.
Sororité, voilà. Et c'était assez intéressant, ça rajoutait de l'intérêt autour de cette sororité. Dans le 2, je trouve qu'on on perd un peu cet intérêt. Trop d'exposition, d'explications, on planifie, on réfléchit à tout, etc.
C'est le bouquin, c'est exactement ça.
Je me disais, il y avait quelque chose qui n'était pas du tout retraduit pour moi. Tu me corriges si je dis, mais dans le film, c'est toute cette espèce de dialogue stratégique qui est tout le temps, tu vois, genre par exemple, entre Faye Drota et le baron Harkonnen, il y a quand même une super rivalité. Et tous les deux, en fait, ils construisent chacun un jeu stratégique pour se nuire, mais en même temps s'aider, tu vois. Et tout ça, je trouve que c'est pas du tout retraduit, parce que ça aurait été difficile, on est d'accord. Mais voilà, il y a toutes ces subtilités, je trouve, qui manquent et qui fait qu'on comprend pas vraiment pourquoi. Tu vois, il y a les Bene Gesserit qui sont là. Pourquoi il y a ci? Pourquoi il y a ça? Enfin, voilà.
Je pense que c'est aussi un des trucs qu'il a... Il y a deux choses qu'il a abandonnées du bouquin et qui me manquent. C'est le fait qu'on a les dialogues. Ça, c'est un style très particulier et qui est bien à l'écrit, mais qui, à l'image, est très, très compliqué en film. C'est qu'on a les dialogues intérieurs de chaque personnage dans le bouquin.
Ouais.
Et il y a notamment une scène magnifique qui aurait dû se passer dans la première partie. C'est une scène de repas avec le duc Leto et des notables de Arrakis.
Donc, Arrakis.
Non, Arrakis, c'est la ville.
Ah oui, c'est la capitale.
La capitale. Et du nord. Et en fait, cette scène, elle est fantastique en bouquin, mais c'est hyper compliqué à retranscrire parce que c'est vraiment de la politique pure. Et effectivement, le côté politique, et je pense que c'est aussi un truc qu'il y a beaucoup moins, il n'y a pas, quasiment même pas en fait, la partie 2, c'est le côté les mantas.
Où est Tufirawat ?
Voilà. Les mantas, ce sont en fait, c'est le, tu sais, c'est le celui que l'ordinateur humain. En fait, ce sont des ordinateurs humains. Mmh. Ce sont des assassins au service des ducs, des différentes maisons.
On en a vu un dans le premier.
Dans le premier, on a vu. C'est le vieux.
Il est un peu beau dedans et en fait à chaque fois il.
Les cheveux gris. Ouais. C'est quand il réfléchit, il calcule des trucs. Il y a ses yeux qui se lèvent en arrière. Et en fait. Dans Dune, les mantas sont hyper présents parce que ce sont les assassins. Mmh. Il y a toute une partie où en fait l'assassin de Harkonnen meurt, se fait tuer.
C'est ça.
Et il y a tout le choix de qui va être l'assassin. C'est une intrigue qui est hyper prégnante dans le bouquin parce que c'est tout l'enjeu politique. Et effectivement, dans la partie 2, ce côté politique est genre est un peu comme le mysticisme qui a été mis dans la partie 1 et qui est juste. Au-dessus de nous, on dit ah ben tiens, en fait, c'est que de la planification, machin, mais on comprend, on n'a pas vraiment les implications et on perd du temps sur parfois peut-être la romance ou trop de ce côté des Bene Gesserit où en fait, en gros, elles ne font qu'une chose, c'est dire on a un plan.
Ouais.
Et qu'est-ce que vous avez pensé? Je rebondis du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de Rebecca Ferguson, donc la mère de Paul?
J'ai pas aimé, trop caricatural. Et le changement de direction dans son personnage est hyper brutal. Elle arrive en mère protectrice de son fils et puis elle se retrouve
à le manipuler en fait. Hein,
mais ça, elle le manipulait depuis le début, ça on le comprend bien dans le 2.
Sauf que là effectivement ça prend encore une autre.
Mais
proportion.
Là le fait qu'elle devienne révérende mère et qu'elle
se mette à porter des chapeaux énormes qui lui couvrent tout le visage.
Oui, c'est ça, les souvenirs des autres révérendes mères et tout ce que ça implique, le fait qu'elle soit enceinte. Enfin, le changement est hyper brutal dans son personnage et on passe vraiment du blanc au noir entre les deux films, je trouve.
Qu'en fait, elle a pas le choix. En fait, on lui dit, c'est ça où en fait tu crèves. Et ton fils aussi, hop, dans le Deleuze.
Tu vas chercher du Salakis.
Deleuze, on attend un chèque, du coup.
J'imagine Dune dans Deleuze, avec des caissiers, tu sais, en habits spéciaux.
Ce serait génial.
Et le directeur, c'est la révérente mère, quoi.
Ah, purée.
Mais non, mais j'ai pas envie d'acheter ça. Dis-y, vous allez acheter ça tout de suite au bout du cul, d'accord?
Avec la voix.
Vous allez acheter ça tout de suite.
Oui, d'accord.
Tu achètes ton chat gros 6 euros. Oui, ok. Oui.
Et tu me remercies.
Mais ça reste un aspect assez mystérieux du film, toute cette histoire autour des Bene Gesserit, autour de l'eau, la fameuse eau de vie. Même si c'est pas très bien construit dans le 2, ça reste intéressant et je pense que ça peut apporter quand même beaucoup de substance pour la suite.
C'est le cas de le dire. On espère qu'il y aura partie
3. Mais c'est vrai que maintenant j'ai des petits flashs qui m'arrivent dans le cerveau parce que chez moi en fait ça met un peu de temps à venir, mais parfois ça arrive quand même. Et donc je vois maintenant tous les liens avec Star Wars en fait. Donc le côté. Le baron Harkonnen, moi, ça me fait vraiment penser à Jabba quand il arrive du trône et tout. Voilà.
Oui.
Là, ce qu'on vient d'évoquer, la voix, c'est la aussi la force. Où je me souviens toujours de cette scène dans Star Wars 1 où Qui-Gon Jinn dit comment il dit
les clones des Jedi, ça ne marche pas.
Non, les midi-chloriens feront l'affaire. Non, ça ne marchera pas. Non, les midi-chloriens feront l'affaire. Non, ça ne marchera pas.
C'est tout le côté Jedi.
C'est la traduction en français. Mais donc, effectivement, je vois maintenant que ça a été probablement une des influences pour
l'empereur.
L'empereur. Évidemment, quoi.
C'était Pompée, là, on va la pomper. Pompée. Enfin, bon, bref, c'était un peu ça, je crois. S'il y avait eu pu avoir une BO sur comment Star Wars a pompé d'une, ce serait avec celle-là.
Donc, c'est
Zebda. Oui, c'est tout à fait ça.
Ce qui aussi, ce qui différencie par rapport au bouquin, c'est que elle est enceinte et l'enfant naît.
Ouais,
dans le bouquin et à la fin il y a beaucoup en fait le temps est beaucoup plus dilaté, ça prend des années à ce que il dégage les gens, enfin il dégage les Harkonnen du contrôle de l'épice.
Ouais.
Ça prend vraiment du temps et
au moins 3 ans, et là c'est ramené à 1 an maximum. Quoi.
Et, moins de 9 mois en tout cas.
Oui, c'est ça. Et alors que en fait on parlait de la fin où tu disais il va tuer le baron Harkonnen, non, c'est pas Paul qui le fait.
Non.
Ben non, c'est la fille.
C'est la petite fille.
La petite sœur de Paul.
Et comment elle s'appelait de nouveau ?
Alia.
Alia, voilà, Alia.
Qui n'est pas encore née.
Non, mais par contre, qu'est-ce que vous avez pensé de ces plans in utero ?
Moi, je trouvais que c'était... Ouais, c'est vrai.
Alors, chirurgicalement parlant, si on voit dans l'anatomie de la jante féminine, qu'est-ce que je te dise ?
Écoute, alors Maïté, cette anguille.
Ouais, ça m'a fait penser à... Alors, je ne sais pas si vous avez vu le Dawn of the Dead de Zack Snyder. Est-ce que vous l'avez vu ?
Le Dawn of the Dead, la façon dont tu le dis.
Dawn of the Dead. Donc
le remake du film de Romero Dawn of the Dead.
Non, je l'ai pas vu.
Dans ce Dawn of the Dead, pour faire court, il y a une femme enceinte qui se fait morte par un zombie et donc du coup, son enfant va devenir un zombie. Et ben, ça m'a fait penser à ça parce que l'enfant, il naît zombie, il sort du vagin bleu. Avec des yeux bleus. Et donc, dans l'utérus de Jessica, eh ben, le fœtus, il devient tout d'un coup bleu, avec des yeux bleus. Ça aurait peut-être même presque pu être Avatar. Je ne sais pas si vous avez noté la référence.
Les yeux bleus, c'est l'épice. Hein.
Mais oui, je suis ça. Ah, mais c'est pour ça, me demandes comment sont passés ce qu'on a pensé des plans in utero. Bah, je te dis, bah, voilà, moi, ça m'a fait penser à Avatar et à Dawn of the Dead de Zack Snyder.
Elle va être bizarre, la petite. Hein.
Elle va avoir
des comportements bizarres.
Elle a déjà vu un plan d'elle adulte.
Anna Taylor-Joy.
Spoiler alerte, elle est hyper chelou quand elle naît, hein, parce que elle a en fait la conscience, et ça c'est pas assez expliqué je trouve dans le film, c'est que quand Jessica boit l'eau de vie,
elle transmet aussi à sa fille.
Oui, elle transmet aussi au fœtus. Et quoi?
Fœtus.
Bah, un fœtus, des fœtus.
Non,
c'est bon.
Un fœtus.
Une souris, des souris. Non.
Dédicace à Gérard Rocher.
Elle l'entendait déjà, sa fille, avant de...
Dans le bouquin, non, mais ça c'est le twist pour en fait, faire exister la fille. C'est le petit twist de scénario. Et quand elle boit l'eau de vie, en fait, elle reçoit toute la connaissance entière de toutes les générations des Fremen, des révérends de mère.
Avant qu'elle soit née.
Mmh. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que Alia, la fille, c'est un fœtus et elle reçoit toute cette connaissance avant de naître.
Ouais.
Et donc,
qu'ils ont fait une connerie.
c'est pour ça qu'ils ont fait une grosse connerie.
Et ça devient une espèce de... Elle a la précognition, elle parle super comme un adulte alors qu'elle a que 4 ans, tu vois, elle fait des choses étranges, les gens ils se sentent pas à l'aise avec elle parce que justement elle a une espèce de manière de voir dans ton âme comme ça, etc. Et là c'est pas du tout expliqué.
Ça va être un enfant malaisant.
C'est un peu comme dans Les Visiteurs quand il a oublié les œufs de caille dans la potion.
Ah oui, ça peut être comme Damien la Malédiction.
Omen. Oui, bien sûr, c'est ça. Exactement.
Oui, non, ça risque de devenir un personnage hyper puissant par la suite, j'imagine.
Tout à fait.
Sans trop en dévoiler. À mon avis, on n'est pas prêt de voir la partie 3. Hein, donc,
Et pour aussi finir sur cette fameuse romance, parce qu'on est dans la dernière partie, là, j'imagine.
Oui.
Moi, ça m'a embêté. Que du coup, on fasse de la nouvelle princesse Irulan qui arrive et qui est censée être juste une représentation politique du mariage de Paul, qu'on en fasse un truc qui met Shani en colère. Parce que dans le bouquin, en fait, Paul, il est très clair, quoi.
Ah
il
oui.
est
là, écoute... Dès le départ, ouais, il lui dit, je vais épouser...
Mais il lui dit aussi dans le film, hein.
Il lui dit juste, je t'aimerais jusqu'à mon dernier souffle. Oui, excuse-moi, mais c'est pas clair. Mais
effectivement, il lui dit.
Pour le coup, je suis pas d'accord parce que par rapport à ce qu'il y a justement dans cette relation avant et l'espèce de déclaration d'amour qui se font à un moment, il lui redit exactement la même chose que ce qu'elle lui a demandé de dire à un moment. Mmh. Et donc là, elle, logiquement, si on suit un petit peu la matière de ce qu'il y a dans le bouquin, elle devrait comprendre qu'en fait, c'est juste un move politique et qu'elle, en soi, elle a pas de. Mais là, on comme tu as dit tout à l'heure. On introduit un petit peu cet aspect de je vais rester que la concubine, ça ne me plaît pas, j'ai envie de m'affirmer. Quoi.
Oui. C'est un peu, ouais, j'ai envie de m'affirmer. Et, alors que je trouve qu'elle a ce côté guerrière qui est moyennement mis en avant. Alors que elle est, en fait, c'est une chef tribale.
Oui, c'est une soldate, quoi, tu vois.
Mais pour Paul, même dans le film, je trouve que ça reste évident que pour lui, c'est juste un move politique.
Ah oui, carrément.
Et que c'est juste Shani qui comprend pas.
Ouais, moi j'ai envie de dire, des mots toujours des mots, paroles et paroles, mais où sont les actes, quoi, tu vois.
On est sur une histoire des années 50.
Remise au goût du jour. Voilà.
Après, ça reste pour les à la défense des Fremen, une société matriarcale et quand même avec des guerrières qui.
Ouais.
Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure aussi. Il faut garder du conflit pour la suite. Ah, il faut clairement. Qu'il y ait un petit peu d'histoire conflictuelle d'histoire. Pour que
tout à fait.
Les gens puissent s'engager dans cette fameuse histoire.
Et mais quand tu dis les guerrières, il n'y en a que deux. Moi, j'ai vu que Shani et sa pote. Hein.
Oui, c'est vrai.
Cela dit, entre guillemets,
là,
le reste.
Film, ouais, dans, le
ouais,
film, ouais.
Dans le reste, c'est tous des mecs. Quoi.
Enfin, c'est vrai. Ce qui est intéressant, c'est. Alors, ce qui est très drôle aussi par rapport aux Fremen, c'est Javier Bardem, qui est le comic relief du film. Vraiment, c'est
Mais le. Mais c'est le Gabe. Ouais, c'est bien, mec.
Et le gars, il est à fond. Il est à fond des le Gabe. Le moindre truc qu'il fait.
Oh, c'est l'élu.
C'est l'élu.
Oh, c'est l'élu.
Est-ce que c'est peut-être pas un peu pour. Désamorcer peut-être l'idée du Messie, effectivement, et peut-être bah, pas tomber dans un
fanatisme,
truc
le problème du fanatisme.
Oui, effectivement, mais du coup, que des personnes, peut-être voyant ce film-là, pourraient se dire alors, être
c'est possible.
Un peu influencées ou quoi.
Je pense
dire,
que.
Il y a peut-être de ça aussi.
Oui, il y a une petite critique, surtout qu'il y a un truc qui est une espèce de non-dit total pendant tout le film, c'est que, bah, en fait, il fait un djihad. Une guerre sainte, parce
carrément.
Que mmh. Frank Herbert s'est beaucoup inspiré de la religion musulmane. Enfin,
ah
bon, oui, voilà,
ça
se voit un peu clairement. Et oui, un petit peu. Et là, le mot djihad n'est jamais prononcé, alors que c'est clairement un djihad.
Non,
quoi.
Mais djihad, c'est un mot arabe. Là, on n'est pas. C'est,
oui,
c'est
mais,
logique
ah
que
oui,
ça ne soit pas utilisé.
Sur
non.
Un film américain,
je pense que ce serait mal passé.
Dans le bouquin, il est utilisé. Oui.
Moi, j'avais l'impression des fois que c'était Mekarakis Great Again. Quoi.
Façon, c'est la traduction. C'est la traduction dans le livre. Il utilise ce mot-là dans le livre. Est-ce que c'est forcément utilisé dans la version originale en anglais? Ça aussi,
c'est à vérifier. C'est à... Non, mais c'est vrai, c'est une très bonne question.
Mais il dit guerre sainte quand
même. Oui, il parle de guerre sainte.
Oui, ouais. De son
la guerre sainte,
oui, c'est sûr.
Ce qui est bien c'est aussi à la fin, quand. En fait, il y a une petite pression quand il y a la confrontation avec l'empereur, c'est qu'on parle que les maisons, les autres maisons, parce que je crois qu'il y a 12 maisons dans l'univers de Dune.
Ça doit être à peu près ce genre de choses.
Les 12 signes du zodiaque. Oh là là.
Ouh, j'avais pas pensé.
Est-ce qu'il y aurait un crossover avec Saint Seiya?
Ah ouais.
Complot direct.
Vas-y, fais-nous le générique des chevaliers du Zodiac.
Et donc, les Atreides, c'est Taureau, c'est ça? Atreides, c'est Taureau?
Ah bah, peut-être bien.
Et du coup, les Arconards, bah, c'est quoi?
Bah, c'est le cancer, évidemment. Masque de mort, dans, pour ceux qui ont vu les animés. Le gros bâtard.
Purée, voilà. J'avais pas pensé. Purée, mais c'est bien, ça. Ouais, il faut qu'on en voit plus.
Et une petite critique sur la princesse Ilurane, pardon. Je la trouve un peu trop vieille.
Alors attendez, c'est
really Irulan, c'est Florence Pugh.
C'est Florence Pugh.
Ah oui, d'accord, très bien.
Ouais.
Qui, pour moi, je la voyais beaucoup plus jeune, vraiment en fin d'adolescence en fait.
Ah ouais, mais moi pourtant son visage poupon, enfin parce que Florence Pugh, elle a un visage assez rond, etc. Moi justement, je la trouvais assez jeune quoi dans l'histoire.
Moi, c'est les costumes qui m'ont fait triper.
Ah, j'avoue.
Chaque scène, elle a un costume du vent, là tu fais waouh, ils sont lâchés encore. Ah ouais, ils sont allés encore plus loin qu'avant, c'est trop bien.
C'est un peu comme la reine Amidala.
Oui.
Tu vois, pareil, avec des costumes 45 kilos. Tu peux bouger, non?
Mais pendant le temps, je me disais, putain, mais qu'est-ce que je vais avoir la conne?
Et je sais pas si t'as capté, mais il y a des retours avec ça match avec ce qui se passe en architecture. À la fin du vaisseau, il y a des espèces de lattes comme ça de métal. Ouais. Et sur la gueule, qu'est-ce qu'elle a des lattes en métal?
Ah oui, j'avoue. Elle est dans le décor.
Quel vaisseau tu vas porter aujourd'hui? Oh, des lattes. Ah, ok, alors je porte des lattes en métal. Pour quel vaisseau aujourd'hui? Oh, le jaune. Ok, moi je mets du jaune.
Bah, le côté costume était très sympa pour le coup. Parce que là, c'est vraiment le seul personnage dont on voit plusieurs costumes plusieurs fois dans le film.
Ah bah oui, elle n'est pas dans le
sinon,
désert.
Ils
où on
sont
sait pas
tous habillés pareil tout le temps.
Ouais. C'est vrai. Sauf Jessica. Elle se change quand même.
Vrai,
elle fait chapeau, chapeau bas.
Et puis elle a des tatouages aussi.
Ouais.
Se tatoue la gueule.
Puis elle a pas le choix, je pense, pour les tatouages. À un moment, elle a un sac banane et la DTN au pied.
On dirait les médias dans.
Frérot, tu fais du shit. Il est bon, shit. C'est du shit fait avec de l'eau de vie. Ça va te faire planer.
Oh my god. L'eau de vie.
L'eau de vie.
Ce qui est, bref. Finalement, si on pense aussi, analogie, l'eau de vie, c'est de l'alcool, machin, on est dans une espèce de religion qui ressemble à la religion musulmane, c'est considéré comme un poison. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi là-dedans de symbolique?
Peut-être, mais en même temps, on ne les a pas vus beaucoup bourrés. Même les
Atreides. Et même, il y a un moment où je me suis dit, alors bien sûr, on savait que la mère de Paul était enceinte, mais pendant les enfants Fremen, en fait, n'apparaissent quasiment pas dans le film. Et moi, je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas d'enfant dans ce film.
Si, dans les victimes.
Oui, mais même à un moment, quand on en aperçoit, je veux dire, mais c'est quand même très, très succinct. Ça aussi, la présence des enfants dans.
Mais ça, c'est un défaut que j'avais du 1. Je trouvais qu'on ne voyait pas assez la population. On l'a sur deux scènes quand ils arrivent sur Arrakis, où ils crient.
Ils sont censés être des millions.
Et en fait, oui.
On ne les voit pas trop.
Non.
Ils sont à peu près 500, quoi.
Le film 500 nous arrive à...
Ils s'en sortent plutôt pas mal, au final.
Ouais. Bah, écoute, faire une petite bombe nucléaire et ça balance des rochers et ça,
ouais, c'est...
ça dégarnit un petit
on
peu la...
On finit quand même avec des guerres atomiques alors qu'à la base... Non, il n'y a pas d'armes dans Dune, à la base.
On se bat avec des canifs, oui, c'est génial.
Bon, finalement, on a des bombes atomiques. Ça dit qui ça dit là-bas.
Encore une fois, scène très marrante qui vient un petit peu relâcher l'ambiance quand ils disent « Ouais, on pourrait exploser toute une planète avec ça. » Puis t'as Shani... et Stilgar qui sont là, quoi?
C'est notre planète dont tu parles, donc ouais. Tu vas te détendre.
Calmos.
José le contrebandier, quoi. C'est trop lâché.
C'est un peu Han Solo.
Putain, Oh là là.
Pareil, le duel final entre les cousins, c'est la main armée de l'empereur, c'est Dark Vador contre Luke Skywalker, l'élu, quoi. Putain, George Lucas. On va t'attraper.
Sacrée cousinade, d'ailleurs, si on peut dire. Mm-hmm. Et là, vous ne le voyez pas, mais Mathieu est en train de faire un signe
voilà.
Avec son doigt.
Voilà, vous avez vu mon signe.
Qu'est-ce
c'est
qu'il
super.
Fait avec son doigt? Qu'est-ce que tu expliques ce que tu fais avec ton doigt, Mathieu?
Moi, je suis...
Il parle en langue des signes comme dans Dune.
Ah, oui, c'est ça. Trop bien. Attention, ils vont nous attaquer. C'est trop pratique, un truc pareil.
À fond.
C'est hyper podcast, ce qu'on vient de faire.
Oui,
à fond.
Imaginez,
vous avez vu, par contre, vous n'avez pas vu.
Des doigts dans le vide. C'est nous.
On a fait les onomatopées. Tec, 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 c'est ça.
Je vous propose de terminer, de donner notre avis que en langue des signes. Alors.
Ah ouais, alors ça va être bien chiant,
excellent.
Je pense.
Excellent.
Oui, faut en morse.
Ah ouais.
Ou comme eux, là, avec leur bruit d'oiseau, là.
Mais c'est encore un parallèle avec les visiteurs.
Oui, c'est ça.
Bon, on va pas le faire.
Pardon.
Voilà, on fait un coup de corne de brume, nickel.
Non, dernier mot pour
dernier mot pour
Dune 2.
Vas-y.
C'était bien, mais ça aurait pu être mieux.
Mathieu.
Bah oui, pas mieux. Voilà, ça aurait pu être mieux. Ouais, j'en attendais plus. Voilà, moi j'en attendais plus.
Et je rajouterais même qu'il crie beaucoup, beaucoup plus dans celui-là que dans le 2. Les Analgaïbes ! Non, c'est la paix ! Non, c'est moi le roi ! Ah, purée, à un moment, j'en pouvais plus. Ah oui, ah, mais ça reste super. Attention, je ne dis pas du mal des films. Oui. Et toi, JB, eh ben dernier
moi,
mot.
Moi, je reste...
Il est sur son nuage.
Bah, il a pas trop d'avis objectif. Ouais, ouais,
ouais, non, c'est exactement ça, j'ai pas d'avis objectif.
T'as pas d'avis objectif.
Et t'as bien un dernier mot.
Paul.
Polo.
Usul.
Moi, Dib.
Dédicace au fils d'un pote qui s'appelle Paul. Et à chaque fois, on essaie de trouver des surnoms, genre Paul Auchon. Donc, Paul Auchon.
Voilà, Paul Usul ou Paul, je sais plus comment on dit.
Paul Emploi. Non,
le mieux que j'avais qu'on avait trouvé, c'était. On l'avait surnommé Iticien Véreux. Iticien Véreux pour politicien Véreux.
Oh, joli.
Ah là.
Paul Position.
Oui, mm-hmm. Voilà, Paul Position. Ah, mm. Pollueur.
Pollueur.
Pollux.
Mmh. On peut.
Bon, on peut pas laisser ça pendant 1000 ans et ça va devenir vite chiant.
Bref, en tout cas.
Mais allez voir Dune, allez voir. Votre propre idée.
Ouais, il y aura une série sur les Bene Gesserit qui va sortir sur HBO.
Oh, comme c'est étonnant.
Et toujours avec les mêmes chapeaux et tout, avec les voiles et tout.
Et mais ça devrait te rappeler les chapeaux bretons quand même, non? Ces grandes élancées là vers le ciel.
Un peu des
grandes élancées. Ce sont des coiffes. On appelle ça des coiffes bandignards. Et c'est un savoir-faire qui s'est perdu aujourd'hui pour bon nombre des coiffes bretonnes qui sont encore faites.
Hommage à Jean-Pierre Pernaut.
Qui sont plus faites. Oui, hommage à Jean-Pierre Pernaut. Et alors? Bordel. Et surtout, je finis là-dessus, mais donc la mère, la révérente mère, la queen size, voilà, ouais. Des Bene Gesserit, en fait, on ne voit effectivement jamais son visage réellement.
On le devine. Moi, j'avais.
Si tu connais Charlotte Rampling, tu vois
à la voix, tu la reconnais.
Tu
la reconnais juste à la voix déjà.
Fait. Moi, je trouve vite fait.
Voilà. Écoute.
Mais parce qu'elle doit rester dans les shadows. C'est une shadow.
Ouais. Et c'est marrant parce qu'on a quand même réussi à ne pas dire qu'il y avait. On n'a pas réussi à parler de Léa Seydoux
une
seule
oui.
seconde. Et ça, ouais. je trouve ça bien.
Ouais. Léa Seydoux.
Non, mais. Raté, du coup.
Léa Seydoux. Léa Seydoux. Elle n'est pas de moi. Elle n'est pas de moi. Je l'ai piqué cette blague.
Deux fois quand même pour qu'on la comprenne. Et ben voilà.
Je voulais m'arrêter là avec Léa Seydoux.
Allez, j'aime bien
Léa Seydoux comme.
Léa Seydoux.
Actrice de film porno qui prend un peu.
Ah, bah oui. Écoutez, c'est Inami Alash qui a imaginé cette petite blague-là. Hashtag Solange te parle sur Instagram, si vous voulez aller voir qui c'est. Voilà.
C'est Solange te parle.
C'est Solange te parle. Elle avait fait un marathon. Elle s'était amusée pendant le Covid, je crois, à regarder toute la filmographie de Léa Seydoux. Ouais. Et donc, elle avait écrit quel Léa Seydoux, c'est dur.
C'est bien résumé.
Voilà.
Super. Bah merci, je vous propose de faire une dernière petite recommandation très très rapide. Mathieu,
refais des signes de...
Ah oui,
Mathieu, une petite reco. Vas-y.
Alors la reco, mais j'espère que c'est un film qui sera un peu plus diffusé qu'il ne l'est actuellement. Mars Express, que j'ai vu il y a deux jours avec Jean-Baptiste.
Sort le 20 mars. En Belgique.
Et voilà, allez le voir, allez le sur-revoir, le voir 14 000 fois. C'est un film d'animation absolument exceptionnel. Et je pèse mes mots.
Pas de reco, rien de nouveau sous le soleil.
Eh ben, est-ce qu'on ferait pas la reco de lire quand même Dune, en fait? Parce que moi, je l'ai lu il y a pas si longtemps.
C'était pas reco.
Ah, merde.
Mais voilà, très bien.
Mais voilà, mais on se complète, c'est très bien.
Pardon.
Lisez Dune, et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y en a 1 milliard.
Oui, beaucoup, beaucoup. Mais si on se limite aux 3 premiers bouquins, c'est pas mal pour comprendre déjà tout le film.
Mais donc, je vous conseille aussi...
Question essentielle, est-ce que c'est sympa à lire?
C'est un style particulier. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de descriptions, c'est beaucoup de dialogues, mais je trouve que c'est accessible.
Ouais, vraiment. Et ça te permet ça te permet de profiter un peu plus de ton film. Parce que Denis Villeneuve, il est à fond sur le visuel. Je pense qu'il traduit en fait tout ce qu'il n'y a pas comme description dans le livre.
Voilà.
Et donc, voilà.
Et dernière question subsidiaire. peut-on prendre en cours la lecture de Dune après avoir vu la partie 1 et la partie 2?
Pour moi, oui, clairement.
Ouais, ouais.
Ouais, tu attaques au livre 3.
Ok.
Et ben voilà.
Tu connais bien les noms, tu connais tout l'univers.
J'ai envie de savoir la suite, mais j'ai pas spécialement envie d'attendre.
Et je vous conseille aussi les bouquins, j'en ai parlé en off avant, désolé les gars, je vous fais une redite, mais de son fils, Brian Herbert, qui a repris la saga. Et il explique, en fait, il va dans le passé et il explique en fait pourquoi il n'y a pas de robots en l'an 10191.
Oui, et qu'il y a les Mantas.
Et qu'il y a les Mantas qui sont là, et donc il y a les fameuses guerres butlériennes.
Oh, Austin Butler.
Ou comme Gérard Butler.
Oh oui, c'est vrai, il y a lui aussi. 300. Enfin, ouais. Non, c'est pas ça. Non, c'est Sparta.
C'est pas 300.
Au revoir. On arrête tout de suite. Là, ça tombe. Là, c'est
ah,
oui, c'est ça qui dit
partout. Parce qu'ils disent pas, genre s'ils étaient 3000. 3000, toi. Les Américains, quand ils débarquent en Normandie.
3195, oui.
Bref.
Allez, c'est doux.
Allez, au revoir. C'est doux, c'est tout. Bisous.
On vous aime. À très bientôt. Et à très vite.
Ciao.
Ciao.
Ciao.